Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans la chronique jeu du mois de Proxy Jeux. Je suis Cyrus et comme d'habitude je suis accompagné par BenoFX. Bonjour BenoFX.
Salut Cyrus, bonjour à toutes et à tous.
Alors ce mois-ci, comme d'habitude, on change rien, on va parler de deux jeux. Tu vas nous parler de quoi ?
Je vais vous parler d'un chien à trois têtes chez la boîte de jeux. Un jeu du nom de Cerber.
Ouais, j'avais reconnu ça. Il n'y avait pas beaucoup de chiens à trois têtes.
Non.
Et de mon côté, on va partir vers l'Asie, et très exactement vers le Japon. Et je vais vous parler d'Anamikoji.
Très bien. J'en ai entendu parler que de nom, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit.
Ah, et ben écoute, tu vas le découvrir ce soir, alors avec nos auditeurs, visiblement.
Parfait, parfait.
Si on commençait par faire un petit retour sur les commentaires du dernier épisode.
Alors ouais, on a eu, comme d'habitude, hein, ça devient un gimmick, mais on a eu un commentaire de Twin. Il n'a pas été très loquace cette fois. Son commentaire, je vais vous le lire texto, c'est « Mouais, ça fait pas vibrer tout ça ». Donc il n'a pas été séduit par les charmes de Crime Hotel et de Solenia, a priori.
Bah oui, il faut croire, ouais. Mais je pense qu'il s'est forcé à nous faire un commentaire quand même. Je pense que maintenant il est obligé, en fait.
Ouais, il sent obligé, le pauvre.
Bah oui, mais bon, Solenia, on peut revenir rapidement dessus. Puisqu'on a appris hier.
Aujourd'hui.
Hein, nous sommes le 24 janvier et nous avons appris hier, effectivement, qu'il était sélectionné à l'As d'Or.
Nomination à l'As d'Or, effectivement.
Voilà, et ben on lui souhaite bonne chance.
Bah oui. La concurrence est rude.
Ouais, effectivement, ça va pas être simple cette année. Les jeux se tiennent dans un mouchoir de poche. Bon, on peut peut-être rapidement citer les sélectionnés du coup, puisqu'on en parle.
Solenia, The Mind.
Il y a également L'île au trésor que j'ai chroniqué précédemment. Shadows Amsterdam. Donc voilà, ça c'est pour l'As d'Or famille. Côté enfant, il y a 4 sélectionnés cette année. Il y a Kikafé, que j'ai eu l'occasion d'essayer il y a pas très longtemps, que je trouve vraiment vraiment chouette, très rigolo, un jeu de rapidité et de mémoire et qui met vraiment les neurones à dure épreuve. Et ouais, moi je me suis vraiment bien marré quand j'ai fait des parties de Kikafé. Un peu dur à enchaîner, mais voilà. Le monstre des couleurs que Paul Gara nous a chroniqué dans les chroniques 102, si je dis pas de bêtises.
Zombie Kids.
Oui, Zombie Kids, qui fait un carton là sur Twitter, on en entend énormément parler, qui a l'air d'être excellent. Un legacy pour enfants, pour le résumer, basé sur un jeu qui avait déjà été édité précédemment par le Scorpion Masqué. Zombie Kids, et celui-ci s'appelle Zombie Kids Evolution.
C'est vrai, j'ai pas mentionné le Evolution.
Puis il y a Mr. Wolf, qui est un jeu chez Blue Orange de Marie et Wilfried Fort, je crois, qui ont fait pas mal de jeux pour enfants récemment. Et puis côté expert, on a
Keyforge, que tu as chroniqué déjà.
C'est exact.
On a Detective, et le dernier c'est Spirit Island.
Voilà, exactement.
Le seul auquel je n'ai pas joué pour l'instant. Enfin, et plus les jeux enfants auxquels je n'ai pas joué non plus.
Voilà, on aura les résultats fin février à Cannes.
Ce sera sûrement commenté en direct dans le débriefing.
Exactement.
Enfin, quasi simultané.
Le lendemain. Plutôt le lendemain, mais bon. Ouais.
Voilà, donc tout ça sur la base du commentaire de Twin.
Voilà, qui n'a presque rien dit, mais nous, on a complété ton commentaire, Twin. Alors on avait aussi un commentaire de Gros Vast qui concernait Crime Hotel en fait. Alors il n'a pas compris parce que je parlais de longe dans Crime Hotel. Il n'avait pas compris en fait le principe quand on ne peut pas suivre une couleur. En fait le principe c'est que si on peut pas suivre une couleur, on joue une carte quand même, mais on n'est pas obligé de jouer dans la dizaine qui est demandée. Alors, ce que j'appelle des couleurs entre guillemets, mais c'est soit dans les 10, dans les 20 ou dans les 30. Et tu me disais tout à l'heure en off que t'avais pas forcément bien saisi non plus cet aspect, mais si on joue hors de la couleur, en fait, on va quand même classer les cartes dans l'ordre des valeurs, ce qui fait que si les 20 sont appelés et que quelqu'un joue un 30, et c'est son 30 qui va être au-dessus. Voilà, qui va donc jouer en premier. C'est un peu comme si il y avait un système de coupe qui marchait si on se disait les 20 coupent les 10 et les 30 coupent les 20, quoi, en gros.
Ouais. C'est ça.
Pour résumer un peu. Et puis il parlait également de Solenia, mais qui n'avait pas l'air de l'emballer plus que ça, si j'ai bien compris.
Non, il disait qu'il refuserait pas d'y jouer, mais qu'il allait pas forcément réclamer une partie plus que ça. Mmh.
Donc voilà, et enfin j'ai eu des informations de la part de Yann Parovel que je pense intéressante de vous faire partager, parce qu'en fait il expliquait que par exemple le plateau en tissu qui toi que dans la chronique je présentais comme peut-être une solution pour que ça coûte moins cher, en fait il m'expliquait que ça coûtait plus cher qu'un plateau standard. Et que c'était une volonté en fait de l'éditeur de garder quelque chose de compact.
Ouais, pour que ça rentre plus facilement dans la boîte qui est assez petite.
Donc comme quoi la perception parfois. Et puis il précisait aussi que le jeu n'était pas distribué en France, contrairement à ce qu'on pensait. En gros c'est de l'import, hein. Donc si votre boutique pratique de l'import, elle peut se le procurer. C'est pour ça qu'on le trouve chez Philibert. Mais voilà, c'est pas distribué largement en France en fait.
C'est ce que je t'avais dit.
Moi j'avais pas bien saisi. Hein. Donc voilà pour les commentaires de la fois précédente.
Tout à fait.
Eh bien écoute, je propose qu'on passe donc à la partie qui nous intéresse peut-être le plus, les deux jeux de ce mois-ci. Et donc je vais te laisser l'honneur de commencer avec Cerber.
Alors Cerber, c'est un jeu semi-coopératif de Pierre Buty. Donc c'est un auteur dont on n'a pas beaucoup entendu parler, mais qui avait fait Sol chez Catch Up Game il y a quelques temps.
Ouais, effectivement, ça me parle.
Un jeu qu'on avait repéré. C'est illustré par Pierre Leisler, de son pseudo Pless. C'est édité par la boîte de jeux Eori Games. C'est pour 3 à 7 joueurs, c'est des parties de 45 minutes environ, c'est à partir de 10 ans. Et c'est disponible, et pas en rupture de stock, à 31,50€ chez Philibert. Alors, qu'est-ce donc que Cerber ? Donc Cerber, pour ceux qui ont la référence, il s'agit du chien qui garde l'entrée des enfers. C'est un gros chien à 3 têtes, bien méchant.
On se demande déjà bien qui est-ce qui voudrait y entrer, mais bon.
Tout à fait. Mais en fait, en tant que joueur, on y est. On est dans les enfers, alors on ne sait pas trop comment on est arrivé là, mais en tout cas, on y est et on veut se barrer, parce que les enfers, ça craint. Et donc pour ça, il va falloir qu'on traverse toute une partie des enfers jusqu'au fleuve Styx, qui est le fleuve d'entrée des enfers, pour y voler une barque et pour traverser dans l'autre sens en fait et pour s'échapper des enfers. Sauf que bah ça va être compliqué puisque Cerber est un autre rousse, hein. Lui il veut pas qu'on se barre.
Il veut jouer, c'est ça.
Ouais, il veut te croquer surtout. Donc comment ça va se passer dans Cerber? Eh bien, il y a un plateau sur lequel il y a des cases, et du coup les cases, il va falloir avancer pour aller jusqu'aux barques. C'est un plateau qui est modulable en fait, il est en plusieurs parties, il y a une partie départ et une partie fin, et après il y a 3 tuiles plateaux au milieu, et toutes les tuiles sont recto verso, ce qui fait que le plateau est un peu modulable. Déjà les 3 tuiles du milieu, on peut les mettre dans un certain ordre, et il y a des tuiles en fait, il y a un niveau de difficulté, il y a des espèces de petites têtes de mort dessus, et en fonction du nombre de têtes de mort totales sur le plateau, en fonction de la forme qu'on lui donne, enfin des faces qu'on choisit, c'est plus ou moins difficile de s'échapper.
D'accord. Donc en fait, c'est si je comprends bien, en fait, tu crées plusieurs parcours finalement avec.
C'est ça.
Quand tu poses tes tuiles, c'est pas un parcours linéaire, quoi. Des embranchements.
Non, c'est un parcours linéaire, sauf qu'en fonction des phases de plateau, il va y avoir des cases spéciales différentes,
okay.
Et qui vont augmenter ou diminuer la difficulté en fait.
Ok.
Et il peut y avoir effectivement plus ou moins de cases. Il y a certains plateaux où il y a des petits embranchements, mais ou des cases vraiment spéciales, genre des cases où tu peux pas être à plusieurs. Donc tant qu'il y a quelqu'un sur la case devant, tu peux pas avancer. Enfin ce genre de choses. Des cases où il y a une espèce de petit téléphérique. Donc si il y a quelqu'un qui l'active sur une case, ben tu peux couper en fait pour éviter certaines cases. Enfin il y a pareil, il y a des téléporteurs, il y a des choses comme ça.
Ah oui,
il y a des cases particulières qui changent en fonction des plateaux et qui ça peut être un petit peu plus court ou un petit peu plus long au niveau du parcours aussi.
D'accord.
Donc nous on est tout au début de ce parcours là et on va devoir avancer pour éviter de se faire mordre les fesses par Cerber.
Du coup on avance comment ?
Voilà. Alors déjà, il faut savoir une chose. Les barques qui sont sur le Styx, il y en a 3 différentes, on pourra en remplir qu'une seule. Donc déjà, en fait, les barques sont l'une derrière l'autre, et c'est la première qui est le plus près en fait du plateau, qui est la première qu'on va pouvoir, dans laquelle on va pouvoir monter. Les trois barques sont différentes parce qu'il y a une barque à une place, une barque à deux places et une barque à trois places. Donc déjà, on va avoir des actions dans la partie pour regarder combien il y a de places et éventuellement changer l'ordre des barques.
Mmh.
Donc, un maximum de trois personnes vont pouvoir s'échapper. Sachant que c'est un jeu pour 3 à 7, quand on joue à 5, 6 ou 7, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc tout le monde ne pourra pas s'échapper.
Ah, mais tu peux jouer à 3 et qu'il y ait effectivement 3 places ?
Ouais, tu peux jouer à 3 et qu'il y ait 3 places. Mais quand tu joues à 3, c'est généralement plus compliqué de te sauver. Mm-hmm. Je vais t'expliquer pourquoi, mais voilà. Donc déjà, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Ensuite, pour avancer ou pour s'échapper, comment ça va se passer ? Tous les joueurs ont une main de carte qui est identique. On a une main de 4 cartes actions par joueur. Et sur ces cartes actions, il y a deux actions possibles à chaque fois. En fait, il y a une action, la carte est coupée en deux, il y a une action au-dessus et une action en dessous. Donc à chaque fois que tu vas jouer une carte, tu choisis l'action que tu veux faire. Et en fait, les actions, souvent, elles ont une dualité, c'est soit tu vas jouer pour toi, personnellement, et avancer un petit peu, ou avoir un bonus, ou voilà, une action qui est assez faible, soit tu vas pas jouer pour toi du tout, tu vas jouer pour un ou deux ou plusieurs autres joueurs,
mais ça, ça va être des actions
plus importantes.
Ouais, ok.
Donc vous voyez, le délire, c'est que pour avancer, pour pas se faire croquer les fesses, va falloir collaborer avec des gens. Parce que si tu joues que des actions perso, tu vas vite te faire attraper, surtout que les autres vont pas du tout t'aider. Mais en même temps, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc il y a forcément un moment dans le jeu
où il va falloir retourner sa veste, quoi.
Soit faut faire vraiment une alliance avec une ou deux personnes en visant la barque de deux ou de trois, soit faut vraiment retourner sa veste au bon moment. Et en fait, ces cartes, quand on les joue, elles ont forcément un coût. Voilà, une carte qui est jouée n'est pas gratuite, et en plus la carte qu'on a jouée, on peut pas la reprendre immédiatement en main. Il y a un système, en fait, il y a une des actions d'une des cartes qui permet de reprendre toutes ces cartes en main. Donc il faut avoir joué aussi sur le timing de ces cartes.
Ouais, et tu payes avec quoi alors du coup ?
Alors, justement, comment tu payes ? En fait, au bout, à l'entrée du circuit, là où est Cerbère au départ, en fait, du côté de, du départ
début,
de Cerbère, au début, il y a une piste, d'accord ? Avec un dé qu'on place dessus. Cette piste est plus ou moins longue en fonction du nombre de joueurs. Il faut savoir que chaque pion joueur qui est mort ou qui n'est pas utilisé vient remplir une case de la piste. Donc tu vois, quand tu joues à 3 joueurs, en fait, t'as déjà 4 pions qui sont posés sur les cases de la piste. Donc la piste du dé est raccourcie de 4 cases. Et en fait, le dé, à chaque fois que tu vas jouer une carte, il y a des cartes qui vont faire avancer le dé de 1. D'accord ? Le dé va avancer sur la piste. Quand il arrive au bout de la piste, Cerbère attaque.
D'accord.
Donc, moins t'es nombreux, plus Cerbère va attaquer vite. Plus t'es nombreux, moins Cerbère va attaquer vite. Mais plus, voilà. Et donc, le coût de la carte, en fait, quand tu vas la jouer, ça va être soit de faire avancer le dé, donc de se rapprocher de l'attaque de Cerbère, soit d'augmenter la valeur du dé. Le dé, c'est un dé qui va de 3 à, c'est un dé 6 faces qui va de 3 à 8. D'accord. Sachant que si tu fais augmenter la valeur du dé indiquée quand le dé arrive au bout de la piste,
C'est le
nombre de cases de laquelle Cerbère va avancer.
Cerbère se déplace. Okay.
Voilà. Donc, arrivé à un moment, à force de jouer des actions, généralement, ça met, en fonction du nombre de joueurs, ça met un ou deux tours, en fait, avant que Cerbère attaque. Faut avoir mis assez de distance avec lui pour pas qu'il t'attrape. Quand il attaque, il parcourt le nombre de cases qui est indiqué sur le dé. S'il attrape quelqu'un, il s'arrête immédiatement. Il va pas au bout, s'il doit avancer de 8,
il
y a quelqu'un au bout de, qui a quelqu'un au bout de 6, il va l'attraper, il le mange. Cette personne est mangée, du coup, elle vient remplir une case sur la piste, donc raccourcir la piste, et le dé Cerbère est remis à 3, et remis au bout de la piste.
D'accord.
Enfin, au bout,
il est repu.
Et il recule sur la première case avec, il y a des cases, toutes les 2-3 cases, il y a un Cerbère de dessiné. Quand il mange quelqu'un, il recule sur la case Cerbère précédente. Donc généralement, ça relaisse un tout petit peu d'espace entre toi et lui, surtout sur les derniers. Par contre, s'il avance et qu'il a mangé personne, le dé revient au début de la piste, mais il augmente sa valeur de 1. C'est-à-dire qu'il se calme pas, il devient furieux, et donc la prochaine attaque va être vraiment violente, quoi.
Ah, donc t'as quand même intérêt à essayer de lui filer quelqu'un en bouffée, en fait, quoi.
Ouais, ouais, c'est qui tout double, parce que il y a une autre chose. Donc c'est un jeu qui est un peu dans la famille jeu semi-coopératif où tout le monde va pas pouvoir mourir. C'est un jeu qui peut se rapprocher un peu de ce qu'on. C'est un jeu qu'on voit pas, enfin c'est un genre de jeu qu'on voit pas trop souvent, mais c'est un jeu qu'on peut rapprocher de Galerapagos qui est sorti il y a pas très longtemps. On en avait parlé d'ailleurs, je crois, au retour de Paris Ludique l'année dernière.
Oui.
Et dans Galerapagos, il y a une espèce de frustration parce que à un moment, tout le monde peut pas forcément survivre, c'est très compliqué. Donc à un moment, il y a des sacrifiés. Et ces sacrifiés, en fait, arrêtent juste de jouer. Il y a une élimination pure et simple. Et du coup, là, dans Cerber, ce qui est marrant, c'est que si tes amis ou tes coéquipiers t'abandonnent, te sacrifient volontairement, mm-hmm. en fait, la personne qui est morte, en tout cas, les premières personnes qui sont mortes, je vais expliquer après pourquoi, mais vont rejoindre le camp du Cerber. En fait, Cerber leur dit, bon, je t'épargne si tu m'aides, en gros, à attraper les autres qui se barrent. Et donc, le jeu de cartes actions que tu as en main, tu vas le retourner. Et au dos, en fait, tu as des actions Cerber avec lesquelles tu vas jouer pour essayer d'attraper les autres.
Du coup, quand Cerber récupère des copains, il est encore plus fort, j'imagine, du coup. Alors, ça remplace des trucs.
Non, alors, le mécanisme d'avancée de Cerber et de puissance reste le même. Mm-hmm. Mais en fait, ça va être des actions qui vont permettre soit, effectivement, d'augmenter le dé ou de le faire avancer un petit peu plus vite. Soit tu vas pouvoir éventuellement faire avancer ou reculer les pions joueurs. Parce que il y a des actions aussi qui permettent de faire reculer certains pions joueurs pour en avancer d'autres, etc. Et surtout, il y a des cases sur le plateau. Surtout, la dernière case avant les barques fait avancer le pion, en fait. Si t'es dessus, quand t'arrives dessus, paf, ça fait avancer le pion. Donc, des fois, t'as intérêt à faire le dé Cerber. La dernière case fait, si tu tombes dessus, ça fait avancer le dé Cerber. Donc, des fois, t'as intérêt à faire avancer des joueurs pour qu'ils tombent sur des certaines cases pour enclencher une attaque. Tu vois, t'as plein d'actions comme ça. Et du coup, tu vas pouvoir te venger un peu de ceux qui t'ont fait un sale coup. Une fois que t'es dans le camp de Cerber, toi, ton but pour gagner, c'est que personne n'arrive dans la barque. Enfin, que personne se sauve.
Ouais.
Mmh. Je crois que je l'ai pas dit aussi, mais une barque ne part que si elle est pleine. Donc, si quelqu'un est monté dans une barque de 3,
il faut qu'il y ait deux autres personnes qui arrivent. Il faut avoir fait le pari qu'il y en ait deux autres qui vont monter aussi. Quoi.
Tout à fait. La barque ne part pas à moitié pleine. Donc, rajouté à ça, il y a aussi un système de cartes survie quand on est survivant et trahison quand on est avec Cerber. Donc ça, c'est des espèces de d'effets bonus. On peut en jouer une par tour. Et ça, on les pioche. Justement, il y a des cartes actions qui permettent de piocher ces cartes. Ou alors, sur le plateau, il y a aussi des cases qui permettent de piocher ces cartes. Et ces cartes, en fait, elles vont avoir un effet assez faible si on en joue une. Et si on en joue une en défaussant une deuxième, ça va permettre d'avoir un effet plus puissant. D'accord. Et donc là, pareil, c'est des effets d'avancer. Ça permet de reculer le dé Cerber, ça permet de le diminuer, ça permet de faire reculer des gens aussi. Tu peux faire de la trahison en faisant reculer des gens, genre... T'es un peu mal barré, Cerber va avancer, t'es le dernier, bah tu fais reculer le mec devant toi de deux cases et du coup c'est lui qui se fait bouffer à ta place. Il y a ce genre de coups fourrés qui sont possibles avec les cartes. Un truc que je voulais dire aussi, je disais quand tu te fais bouffer, tu vas jouer avec Cerber, sauf les deux derniers survivants. En fait, au bout d'un moment, Cerber, bah, il a assez de potes, hein, et puis ce qu'il veut, c'est aller bouffer les mecs.
Ouais,
qui
il veut quand même bouffer un ou deux, quoi.
Voilà. Donc en fait, si tu es dans les deux derniers survivants, ton seul moyen de gagner, c'est de monter dans une barque avec ton coéquipier, parce que tu peux pas faire autrement.
Oui, ça paraît logique. Sinon, j'imagine que ce sera un petit peu bugué, sinon.
Ouais, sinon tout le monde gagne en tant que Cerber, quoi. Et du coup, quand tu joues à 7, par exemple. Et qu'il y en a plus que deux, ça veut dire que t'en as cinq autres qui veulent te faire la peau, quoi. Donc là, le rapport de force, il s'inverse vraiment, vraiment, quoi. Voilà pour les explications. Je pense que
ça a l'air plutôt rigolo, effectivement. Hein. Ça ressemble bien le jeu un peu putassier, quoi, avec du retournement de veste et peut-être même, j'imagine que tu dois pouvoir tenter de jouer la stratégie. T'essaies de te faire bouffer, quoi, non?
Ah oui. Après, quand tu joues en niveau vraiment difficile, tu peux te retrouver à te faire bouffer très, très vite.
Et je veux dire, voilà. ça peut être aussi une stratégie, j'imagine,
de vouloir jouer Cerber,
se faire bouffer vite pour jouer Cerber, quoi.
J'ai pas eu le cas dans mes parties encore. Il y a personne qui s'est dit, je reste derrière volontairement, parce que, en fait, finalement, t'es plus fort à plusieurs, puisque tu peux jouer des cartes pour les autres. Donc, il y a toujours quelqu'un qui te fait avancer. Enfin, tu n'es pas totalement maître de ce que tu fais avec ton pion. C'est-à-dire que quelqu'un peut décider de t'avancer. Pour éviter que tu te suicides, quoi.
Ouais, je comprends que genre si t'es 4 ou 5 joueurs par exemple, admettons t'es 5, toi si tu décides tout, enfin tu peux pas décider tout seul de ton sort, quoi. T'en as 4 qui peuvent te faire avancer alors que toi t'as décidé de pas avancer, quoi.
C'est ça. Mais après, quelque part, enfin ils sont pas obligés de te sauver non plus, quoi.
Oui.
Si tu commences à la jouer perso dès le départ, tu vois, hein, je m'avance que moi, les gens vont pas forcément avoir envie de t'aider non plus, donc. Donc voilà, ça, c'est un truc que j'ai bien aimé dans ce jeu-là, c'est les alliances qui se font et se défont assez naturellement, quoi. Enfin, Souvent, quand t'es à, j'ai joué à plus, j'ai pas joué en dessous de 5, hein, j'ai fait plusieurs parties, mais plutôt à l'assaut, donc on est toujours entre 5 et 7, toujours relativement nombreux. Et c'est marrant parce que des fois, il y a quelqu'un qui t'aide, donc forcément t'as envie de l'aider en retour. Et quelqu'un qui t'aide pas, bah t'as envie de le laisser derrière, donc t'as des alliances qui se font comme ça. Et puis t'as des alliances de circonstances, genre bah ouais, j'ai aidé un tel et toi t'as aidé un tel, mais bon maintenant les deux sont un peu en arrière, bah on va les laisser et puis nous on va essayer d'avancer.
Ouais, se faire la malle, ouais.
Ouais. Et puis quand tu joues, effectivement, comme je l'ai dit, quand tu joues tout seul, ben les gens ont tendance à dire bon bah tu m'as pas aidé à avancer, je vois pas pourquoi je t'aiderais toi, donc démerde-toi quoi.
Ouais, et puis j'imagine quand tu te retrouves sur des cases spéciales aussi, il y a peut-être un peu d'optimisation ou tu dis, ouais, tu parlais de l'espèce de téléphérique là, tant qu'à faire, tu vas peut-être essayer de faire en sorte qu'il soit utilisé quoi.
Tout à fait. Et ça, c'est les trucs un peu spéciaux comme ça, je crois que Cerber peut pas les utiliser. Enfin, il y a un téléporteur aussi du même principe. En fait, il y a une case où c'est un bouton d'activation. Et si, tant que quelqu'un est dessus, tu peux passer dans le téléporteur. Mais du coup, Cerber, lui, peut pas passer à travers. En fait, Cerber peut jamais se retrouver devant un joueur. Il est obligé de passer par les cases.
Ça paraît logique.
Ouais. C'est assez logique. Donc, c'est un jeu où il y a, c'est assez intéressant. Pour le comparer à Galerapagos, hein, qui est dans le même genre global, je le trouve plus intéressant parce que déjà, il y a plus de choix d'action de ce qu'on peut faire. C'est un peu plus personnalisé. Dans Galerapagos, t'as 4 actions, je crois, qui sont assez basiques. Chercher du bois, chercher de l'eau, chercher de la nourriture ou piocher des cartes.
Mais je pense que dans Galerapagos, ça joue beaucoup plus à la parlotte que dans un jeu peut-être comme Cerber, voilà, où chacun décide vraiment de ce qu'il fait. Alors que dans Galerapagos, t'essaies plus ou moins de te mettre d'accord. Bon, c'est pas toujours vraiment le cas, mais le fun de Galerapagos, il est plus dans la discussion, dans la négociation.
Oui.
Et après, c'est pas c'est coop. Enfin, c'est. Ouais.
Bah, c'est un peu le même semi-coop, tu vois. Tu peux pas t'en sortir tout seul, mais en même temps, tout le monde va pas vraiment pouvoir s'en sortir, quoi.
Oui, c'est ça. Mais à la fin, dans Galerapagos, il peut y avoir personne qui gagne, quoi.
Oui.
Il y a pas d'inversion de camp. Là, c'est vrai que l'originalité dans Cerber, c'est cette inversion de camp. Quoi.
Et je trouve que ça soulage un peu aussi la frustration que tu peux avoir dans ce genre de jeu quand tu te fais sacrifier ou quand les autres décident de te trahir ou de te laisser derrière, etc. Bah là, tu peux dire bon, ok, mon coco, t'es ma nouvelle cible, quoi. Je vais faire en sorte que toi, tu n'arrives pas au bout, même si les autres gagnent, tu vois.
En fait, c'est pas un jeu de pute, c'est un jeu à vengeance.
C'est ça. Ah, c'est quand même un jeu où t'as du bluff et des coups fourrés, hein, parce que pendant que t'es vivant, tu peux très bien emmerder quelqu'un ou, enfin, à un moment, c'est fatal dans la partie, à un moment, tu dois choisir qui tu sacrifies, quoi. Et nous, la première partie qu'on a jouée, on était, je crois, 6 adultes, un enfant, enfin, en tout cas, un plus jeune qui devait avoir 16 ou 17 ans. On a sacrifié les femmes et les enfants d'abord. Il y est passé, ouais. Mais du coup, après, au début, il était un peu genre, non, mais pourquoi moi et tout ça. Et puis après, quand, tu vois, ça aurait été Galerapagos, il aurait arrêté de jouer, je pense qu'il aurait boudé un peu, il aurait fait un peu la tête. Là, on lui a dit, non, mais maintenant tu passes Cerber, tu vas pouvoir, et donc, il avait qu'une seule idée en tête, le mec qu'il avait sacrifié, il voulait pas qu'il termine le jeu, quoi.
Ouais.
Donc ça c'est plutôt sympathique. Après j'ai pas testé tous les plateaux encore, hein, parce qu'il y a quand même comme il y a 5 plateaux qui sont recto verso.
Ah, t'as 5. D'accord.
T'as le plateau de départ.
T'as dit 3, mais en fait t'en mets 3, c'est ça?
Non, t'as le plateau de départ, le plateau d'arrivée.
Ah, ils sont recto verso aussi.
Ils sont recto verso.
D'accord.
Et les 3 du milieu qui sont recto verso.
Okay.
Donc le départ et l'arrivée, il y a toujours la piste de dés, et puis à l'arrivée, il y a toujours l'emplacement pour les barques. Hein.
Ben,
mais après, il y a des voilà, les cases sont un petit peu différentes. Il peut y avoir des chemins un peu plus longs, etc. Et puis après, si tu trouves que c'est encore trop facile, même avec les cases les plus difficiles, ils te disent que tu peux commencer le Cerber à 4, 5, 6, au lieu de 3. Ouais, quoi,
évidemment.
Tu vois, sur la... Mais franchement, même en mode facile, déjà, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de parties où des gens se soient barrés, quoi. Parce que en fait, c'est un espèce d'effet d'entraînement. Quand il y a des personnes qui commencent à se faire bouffer, bah tu te fais bouffer plus facilement et donc t'es moins nombreux, donc tu avances moins facilement et t'as une espèce de course qui s'enchaîne et d'espèce d'effet domino, quoi, qui fait que c'est de plus en plus dur, quoi.
Oui, on sent bien que mécaniquement, il va y avoir une espèce d'inversion entre tous les joueurs jouent plus ou moins ensemble pour tenter de gagner, et puis au fil du jeu, il y en a un qui va se faire bouffer, et on sent que le jeu il va basculer en fait dans l'autre camp. Et le but effectivement, bon, réussir à s'en sortir, c'est que ça bascule pas entièrement, puisque faut qu'il y ait un ou deux joueurs. Mais effectivement, c'est vrai que ça paraît difficile, la double contrainte plus il y a de méchants entre guillemets, enfin plus il y a de gens qui se font bouffer par Cerber, et donc plus il y a de méchants, plus c'est difficile. Et la contrainte de l'autre côté de la barque qui est limitée en nombre de places et qui du coup fait que de toute façon tu peux pas garder il y a peu d'intérêt de garder 4 ou 5 personnes en vie, quoi.
Ouais, mais en fait tout l'intérêt c'est justement il faut rester le plus nombreux possible le plus longtemps possible, et bien sûr s'entraider, etc. Et en fait tout le sel, ça va être le moment où quelqu'un décide de dire moi j'ai envie de gagner, donc il faut qu'on en sacrifie, tu vois. Et ce point de bascule là, en fonction de s'il est plutôt au début, plutôt à la fin, en fait s'il est plutôt au début, forcément ça va faire un espèce d'effet domino, Cerber va être très puissant très vite et ça va être très compliqué d'aller à la fin, même si c'est pas impossible. Et en fait plus il arrive tard, plus il va y avoir des coups fourrés vraiment dégueulasses pour avoir la place sur la barre, quoi. C'est là où les gens vont sortir leurs cartes, ce qu'on appelle des cartes survie, là, les cartes bonus qui vont faire reculer des gens, tu peux faire reculer des gens qui sont sur la barque, hein. Une fois que t'es sur la barque, pas safe à 100%. Tant que la barque est pas remplie et qu'elle est pas partie, tu peux te prendre des cartes dans la gueule qui te font reculer ou ce genre de choses.
Donc, si t'arrives nombreux
à la fin, ça peut être le bordel.
Non, on peut pas dire qu'il y ait une vraie course à arriver le premier à la barque, en fait, parce que du coup, tu peux reculer, quoi. Ouais, d'accord.
Ouais. Bah bon, après, t'es dans une position plus agréable que.
Ouais, plus avantageuse, c'est sûr.
T'as le Cerber à Tetros. Voilà, vraiment. Alors, c'est un jeu forcément. C'est un jeu où il y a beaucoup beaucoup d'interactions, hein. Ça change un peu de la plupart des jeux là qu'on a ces derniers temps. Mais là l'interaction elle est vraiment très présente, et c'est l'interaction justement qui fait un peu tout le sel du jeu, quoi. Mécaniquement ça marche bien, c'est assez rigolo, mais c'est vraiment les décisions des joueurs les uns par rapport aux autres, de s'entraider ou pas, qui vont donner en fait le dynamisme ou la couleur à la partie. Ouais, tout à fait. Donc moi c'est vraiment un jeu que j'ai apprécié. Les 3-4 parties que j'ai faites, on a vraiment bien rigolé. Alors c'est vraiment. Bon, généralement à l'assaut on rigole bien, tu vois, mais c'est un jeu que j'avais acheté aussi pour l'amener au bureau, j'ai pas encore eu l'occasion, parce qu'en ce moment on est en plein tournoi de mots pour mots au bureau.
Ah d'accord.
Un tournoi géant de mots pour mots, là c'est sur 3 semaines avec. On fait un tournoi sur 3 semaines avec poule, demi-finale, finale, etc. Donc on n'a pas trop le temps de jouer à autre chose. Ouais, c'est tout le. Toute la direction technique là, on est 10 poules de 12 personnes, tu vois, on est 120 personnes à participer, donc c'est un énorme truc. Donc j'ai pas eu l'occasion de le sortir au bureau, Cerber, mais je pense que ça peut être cool, parce que j'ai déjà joué à Galerapagos au bureau, et il y a vraiment eu des gens un peu fâchés, quoi. Des susceptibilités qui font que quand tu te fais éliminer. Genre quand il y a un vote parce qu'il n'y a pas assez de bouffe et qu'on t'élimine, il y a des gens qui l'ont très mal pris. Et je pense qu'avec Cerber, ça adoucit vraiment la pilule, parce que tu te dis, bon, ok, je me suis fait...
T'as vraiment moyen de te venger, quoi.
J'ai perdu, mais pas tout à fait. Je peux encore gagner si je me venge, quoi. Et voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Je pense aussi que, comme je t'ai dit, j'ai pas fait beaucoup de parties en dessous de 5 personnes, mais je pense que c'est plus fun, enfin, plus t'es nombreux, plus il y a le côté, moi j'aide celui-là, moi j'aide lui, enfin, finalement, les alliances qui se font et qui se défont, à 3-4, en fait, t'es plus, je pense que t'as moins justement ce côté négociation, entraide, ça doit être moins présent, quoi.
Ouais.
Et puis, Cerber avance plus vite, donc, t'as plus intérêt naturellement à t'entraider, quoi.
On sent que c'est le genre de jeu effectivement qui doit être plus rigolo à 5, 6, 7. Ouais.
Au niveau de l'adéquation avec le thème, le thème est un peu étrange, quoi. Qu'est-ce qu'on fait en enfer, pourquoi on veut se barrer, qui on est. Sachant que les pions sont assez marrants, parce que c'est des meeples mais qui ont des silhouettes différentes.
Et vraiment des personnages différents les uns des autres, c'est ça ?
Ils sont tous différents les uns des autres. Donc t'as des silhouettes en fonction des couleurs, et donc il y a. Il y a une péruvienne, il y a un espèce d'aventurier, il y a un sacrin fou. Enfin, voilà, il y a des profils différents. Il y a même un chien, un petit chien.
Tout le monde se retrouve en enfer.
Ouais, c'est ça. Tout le monde se retrouve en enfer. On ne sait pas trop pourquoi. Je ne sais pas s'il y a. Ah si. En fait, c'est plutôt des aventuriers, c'est ça. Parce que la petite phrase d'accroche, c'est votre dernière aventure vous a mené là où vous n'auriez jamais dû aller, dans les enfers. Vous devez fuir et rejoindre une barque qui vous mènera en sécurité. Mais Cerbère, le molosse infernal, à vos trousses et compte bien vous garder à jamais. Donc on sait pas trop, c'est des aventuriers qui sont allés un peu trop loin et qui se sont retrouvés en enfer, on sait pas trop comment. Voilà, le thème est un peu étrange comme ça, y a pas trop de contextualisation, mais en même temps, bah ça marche plutôt bien avec l'aspect mécanique, c'est plutôt cohérent quoi.
Ouais, c'est ça, quand t'es dans le jeu, ça marche, t'es poursuivi par un molosse et t'essaies de te barrer et si t'y arrives pas, tu te fais bouffer quoi. Donc bon voilà, effectivement.
Ouais. Sur l'ergonomie, bah tout est plutôt bien foutu hein, les pistes, les cartes, le dé, enfin. Même si les cartes actions, en fait, comme elles peuvent être tenues dans un sens ou dans l'autre.
Ouais, ça doit pas être très pratique. Ouais.
En fait, toi, tu sais ce que tu joues, mais après, les autres voient pas forcément, au moment où tu poses la carte, savent pas forcément laquelle des deux actions tu joues, quoi. Bon, après, comme tu fais le truc.
Oui, tu le dis, quoi.
Tu le dis, voilà, et puis, c'est pas trop gênant. Voilà, il y a un thermoformage qui est très très bien foutu. Alors, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'il y a des espèces. Alors, déjà, au dos de la règle. Non, c'est au fond de la boîte, c'est pas au dos de la règle, c'est au fond de la boîte. C'est dans le couvercle, voilà. Dans le couvercle, t'as une espèce de pierre tombale avec écrit Repose in Peace, enfin RIP, et ouais. Avec des espèces de lignes qui sont vierges, et tu peux remplir en fait le nom de gens qui se sont fait bouffer par Cerbère.
Qui sont morts aux enfers, hein, d'accord.
Voilà. Donc t'as largement de la place pour en mettre beaucoup. Hein. Voilà, tu peux. Il y a écrit quoi ? Il y a écrit. Écrivez ici les noms de vos valeureux. C'est écrit très sombre en fait. Camarades, aventuriers, attrapés par Cerbère. Voilà. Donc tu peux faire. On l'a pas fait pour l'instant, mais tu peux garder une trace de tous ceux qui se sont fait attraper.
Les trophées de Cerbère, quoi.
Voilà. Et tu sais, on commence à voir dans certains jeux maintenant qu'il y a des achievements aussi en fonction de, des réussites particulières. Et ben là, en fait, c'est sur le contour de la boîte. Donc la boîte intérieure, en fait, la boîte inférieure. Sur le tour, en fait, tu as des achievements avec des petits ronds et il y a une petite planche d'autocollant. Et tu peux coller les achievements directement sur le tour de ta boîte en fonction des réussites un peu extraordinaires que tu as fait, genre manger son premier aventurier en tant que Cerbère, réussir à s'enfuir pour la première fois en barque, avancer son pion de 5 cases en un seul tour. Voilà, tu as tout un tas d'achievements tout autour de la boîte, en fait, sur les 4 côtés.
Ouais, c'est sympa.
Voilà, c'est plutôt rigolo au niveau de l'édition, c'est un petit clin d'œil.
Ouais, c'est tout qui mange pas de pain, mais ça fait plaisir à certains joueurs, quoi.
Tout à fait. Après, 31,50€, c'est pas un prix super ramassé, quoi. C'est un petit investissement quand même pour un jeu d'ambiance. Mais après, il y a du matos quand même. Il y a pas mal de cartes.
Ça me paraît assez honnête pour le nombre de joueurs. On sent que c'est un jeu qui a une rejouabilité qui n'est pas non plus qui est loin d'être nul.
Non, clairement.
Donc, si c'est un jeu qui plaît, je pense qu'il sera facilement amorti un tarif comme ça. Ça me choque pas. C'est sûr, c'est pas un tarif de Codenames ou je sais pas quoi. Mais
c'est clair. Même de Galerapagos qui est un petit peu moins cher aussi, dans la vingtaine d'euros. Mais honnêtement, ça fait plutôt bien le job. C'est un jeu, enfin, comme on disait, les espèces de jeux coop à géométrie variable où tout le monde peut pas survivre, il y en a pas tant que ça.
Non, là, comme ça, j'avoue que j'en vois pas comme ça. Mais il doit en exister quelques-uns, c'est
surtout
sûr, mais...
avec le retournement de situation, quoi.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc c'est ce côté-là, c'est assez original. Puis c'est des sensations de jeu qui sont assez agréables. Je crois que j'ai répété plusieurs fois, mais ça gomme un peu la frustration de ce genre de jeu à élimination, quelque part. Donc ça s'adresse aux joueurs qui aiment bien le bluff, la négo. Un peu
au
de
bluff,
co-op,
c'est peut-être pas, enfin c'est pas du bluff, c'est de la fourberie, mais pas,
ouais,
pas du
ouais,
bluff.
Enfin le bluff dans le sens où tu peux promettre des choses qui c'est plus de la fourberie,
ouais.
Effectivement. Tu peux promettre d'aider quelqu'un, mais t'es à ton tour, tu fais ce que tu veux finalement, t'es jamais obligé de le faire.
Ouais, c'est dans l'aspect de négociation. Hein.
Si tu me fais avancer, je te fais avancer, et puis après voilà, c'est plutôt l'aspect fourberie négociation. Donc avec de la coopération ou pas, même si elle est nécessaire. si on veut gagner, en tout cas si on veut atteindre la barque, parce qu'à gagner avec Cerber, il y a peut-être moins besoin de coopération. même si quand on est plusieurs à être Cerber, enfin quand on est plusieurs du côté de Cerber, on peut essayer de se coordonner pour faire des espèces de combos.
Ouais, j'imagine un peu diabolique. Pour faire reculer un mec de deux cases et pas d'une seule.
C'est ça. Bon. Ou justement le faire avancer, reculer sur la case qui fait avancer le dé sur la piste de Cerber.
Parce que quand tu joues côté Cerber, enfin les gens gardent l'ordre du tour, en fait on garde l'ordre du tour et ils peuvent jouer une carte, en fait, c'est ça?
Oui, tout à fait.
D'accord.
En fait, c'est les quatre cartes actions que t'as en main, elles sont recto verso.
Oui.
Donc d'un côté t'as deux actions survivants et de l'autre côté en fait t'as deux actions Cerber, donc tu retournes complètement les cartes.
Ah, t'en as deux aussi, ok.
Et justement là où le coût de jeu des cartes pour les survivants, ça va être de faire avancer ou augmenter le des Cerber. Une partie du coût des cartes côté Cerber, ça peut être justement de faire avancer les survivants. Donc tu leur donnes un petit avantage, mais en contrepartie, tu fais avancer le dé ou tu. Donc après, il y a un peu de calcul en sachant de si je le fais avancer d'un, ça déclenche le dé. Est-ce qu'il est à portée ou pas de Cerber? Tu vois, enfin, tu peux. Il y a un peu d'observation là-dessus quand même. Voilà, c'est très agréable en fait. C'est un jeu très rigolo. C'est pas un jeu prise de tête. C'est à déconseiller aux joueurs qui aiment bien tout maîtriser, calculer, optimiser, etc. Parce que c'est vraiment une forte interaction. Donc voilà, ça change un peu de ce que je vous ai présenté dernièrement et ça fait du bien de d'un peu se foutre sur la gueule et d'avoir une interaction un peu plus forte.
Avec les jeux de ce style qui a, enfin, parce que quelque part ça se rapproche des jeux qui ont un mécanisme coopératif, mais avec à la fin un seul gagnant ou deux gagnants souvent sont des jeux qui marchent pas. Mais là, le fait que ça rajoute ce système où tu te retrouves dans l'autre camp,
ouais.
On sent qu'effectivement ça marche. Enfin, toi, tu y as joué, donc.
Marche très très bien.
Ah si, c'est ça. J'avais joué à un jeu. Un truc complètement obscur à Essen, il y a au moins 3-4 ans, un jeu comme ça, un peu sur le même principe, en fait, où tu te retrouvais, parce que je me disais, putain, je cherchais. Ouais, je retrouverais absolument pas le nom, en fait. Il faudrait que je regarde dans mes vieilles photos, je retrouverais le nom, en regardant les vieilles photos, là. Pour le fun, peut-être que je mettrais une photo et le nom dans le billet, quoi, mais. Mmh. C'est un truc complètement pas terrible, raté, où tu te retrouvais à perdre des membres, je sais pas quoi, et effectivement, quand tu te faisais complètement bouffer, tu passais de l'autre côté, mais le jeu avait l'air complètement bugué pour le coup, parce que t'avais vraiment tout intérêt à passer de l'autre côté, en fait.
Mais bon, d'accord. J'ai l'impression, enfin, je pense pas que ce soit bugué, hein, mais c'est un petit peu dur, je pense, au niveau de la on va dire de la répartition, je sais pas s'il y a eu des stats là-dessus, mais je pense que Cerber gagne un peu plus souvent que les aventuriers, mais bon, encore une fois, ça dépend du niveau de difficulté qui est mis et puis de la physionomie de la partie, au niveau de comment les gens s'entraident et puis comment les gens se trahissent, etc. Enfin voilà, pour mon avis final, c'est vraiment une belle découverte, encore une. Ça change un peu effectivement des jeux que vous avez présentés récemment et c'est pas plus mal. On joue pas mal à ça à la sauce, on y rigole beaucoup. Je pense que voilà,
faut le prendre pour ce que c'est, ouais. C'est un jeu de fourberie. Et plutôt fun, ouais. Enfin, ouais. De la façon dont tu le décris, ça,
tout à fait.
Ça ressemble à ça, quoi.
Et comme je l'ai dit plusieurs fois aussi, je pense que voilà, le fait de ce petit détail de dire si je me fais éliminer, je change de camp, ça aide vraiment à faire passer la pilule et en fait à ce que tout le monde passe un bon moment, que t'aies gagné ou perdu, en fait. Et c'est ça qui est chouette dans ce jeu. C'est beaucoup moins frustrant, par exemple, qu'un Galerapagos, quand tu perds, il y a une petite frustration, quoi. Là, t'as vraiment le côté, j'ai perdu, mais peut-être pas. Et en tout cas, je continue à jouer et voilà, tu t'amuses jusqu'au bout.
Ouais, mais je serais intéressé s'il y a des auditeurs qui voient des jeux un peu qui
sur son principe, ouais.
Hein, ouais. C'est moi, à part ce truc obscur que j'avais essayé à Essen, je vois pas, là. Et puis en plus, j'ai pas le nom, donc c'est super intéressant dit comme ça. Mais bon. Voilà, bah, donc si vous connaissez des jeux qui utilisent ce principe, là, de bascule d'un camp à l'autre, ça m'intéresse. Parce que je pense qu'effectivement, c'est, ça doit être assez rare.
Bah, je refais la fiche signalétique pour terminer. Donc, on a parlé, en tout cas, j'ai parlé de Cerber, donc qui est un jeu de Pierre Buty, illustré par Pierre Pless et Jules Dubost. C'est édité par la boîte de jeux et par Ori Games. C'est pour 3 à 7 joueurs, pour des parties d'environ 45 minutes. Plus ou moins modulo le nombre de discussions autour de la table. C'est à partir de 10 ans. Et c'est disponible chez Philibert à 31,50€.
Eh bien, merci.
Eh bien, merci à toi. Je vais attentivement t'écouter nous parler de Anamikoji.
Eh bien, allez, c'est parti. Anamikoji, c'est un jeu de Kota Nakayama. C'est un jeu qui est édité par Yellow. Alors c'est une forme de coédition avec Cosmos. En tout cas, il y a le logo de Cosmos sur la boîte. Mais la boîte est entièrement en français. J'imagine qu'il y a eu une petite mutualisation et coordination de moyens. C'est un jeu qui est illustré par Mae Shirley Chan. Ouais, je m'excuse pour la prononciation. C'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs à partir de 10 ans, des parties annoncées de 15 minutes. Et c'est en vente à 12€ chez Philibert. Alors, Anamikoji, le principe, c'est un jeu qui va jouer en plusieurs manches. C'est un jeu de majorité sur lequel se greffe un système avec 4 actions différentes. C'est-à-dire qu'en fait, on va jouer des cartes. Il y a des cartes qui sont mises au milieu de la table. Il va falloir, en quelque sorte, conquérir ces cartes par des systèmes de majorité.
D'accord.
Avec d'autres cartes qu'on a en main. Et il faut avouer que, à l'explication, c'est pas évident de se rendre compte de ce que procure et ce que provoque le jeu. Je vais faire mon maximum, mais je me rends bien compte qu'on m'a expliqué le jeu, j'avais pas compris, j'ai écouté un podcast qui a parlé du jeu, j'ai pas bien compris.
Et quand tu as joué?
Bah, quand tu joues, toi, tu comprends, et tu les sensations, tu les ressens, et tu vois bien, du coup, de quoi il en retourne, même quand on te le présente avec le matériel, c'est déjà plus évident, quoi. Mais, à l'oral, ça a du mal à passer. Un peu comme des cryptos, en moins pire, quand même. Donc, bon, c'est un jeu de majorité, sur les grands principes, avec un système de 4 actions différentes qu'on va pouvoir utiliser chacune une fois. Donc, en gros, je fais mon tour, je déclenche une action, ce qui va me permettre de jouer mes cartes que j'ai en main d'une certaine façon, dans le but de conquérir des geishas, on va dire. Enfin, je vais pas les appeler cartes, je vais dire que c'est les geishas, hein. Ça sera plus simple peut-être pour l'explication. Des geishas qui sont
au milieu de la table.
Voilà, le but étant en fait, alors Anamikoji ça veut dire Kyoto, enfin c'est l'ancien nom de Kyoto, et le principe en fait c'est qu'on est des gérants de salons de thé, et on cherche à recruter les meilleurs, enfin les geishas les plus réputés de la région. Donc ces geishas elles sont exposées devant nous, et elles ont chacune des valeurs, qui vont de 2 à 5.
D'accord.
Ces valeurs-là correspondent au nombre de cartes qui se trouvent dans la pioche pour chacune de ces geishas.
Il y a des couleurs, c'est ça, différentes?
Oui, des couleurs. En fait, c'est plutôt représenté par des symboles. Enfin, s'il y a des couleurs, c'est des symboles plus couleurs.
En gros,
les geishas, elles ont un objet fétiche, en quelque sorte. Il y en a une qui a un éventail, il y en a une qui a un instrument de musique. Bref, chacune a son objet fétiche, et il y a autant de ces objets dans la pioche que la valeur de la geisha.
D'accord.
Et donc, voilà, donc le principe il est là. En fait, c'est de conquérir des majorités pour acquérir les cartes. Le but étant, pour gagner, soit d'avoir 4 geishas sur les 7 qui sont présentes, soit d'avoir 11 points, les points étant la valeur des geishas.
D'accord.
Donc voilà, ça c'est pour le principe de base. En fait, techniquement, donc les joueurs vont poser des cartes devant les geishas. Et simplement, en fait, bah, la geisha, par exemple, s'il y a une valeur de 3, ça veut dire qu'il y a 3 cartes de son objet dans la pioche. Donc celui qui aura le plus de cartes de son côté de la geisha va remporter la geisha.
D'accord.
Donc si à la fin de la manche, j'ai une carte de mon côté et que l'adversaire n'en a pas, ce qui est une possibilité, toutes les cartes ne seront pas jouées, je vais expliquer pourquoi. Je remporte les faveurs entre guillemets de la geisha. C'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais je sais pas trop comment le dire. Hein. Voilà, en gros, la geisha va accepter de travailler pour moi parce que je lui ai offert les cadeaux qui lui plaisaient. C'est dit comme ça dans les règles. Hein.
D'accord.
Je trouve ça un petit peu réducteur moi pour les geishas, mais bon, c'est dit comme ça. Donc voilà. Et donc en fait, à la fin d'une manche, on va regarder comme ça le nombre de cartes qui est de chaque côté.
Ça fait penser un peu à Shoten Totten comme ça.
Voilà,
enfin, visuellement en tout cas.
Ouais, ouais. Il va y avoir. Je vais faire un peu les rapprochements plus tard, mais effectivement, c'est vrai que quand on te le présente, on pose les cartes au milieu de la table. On te dit, tu vas poser des cartes de ton côté, l'adversaire va en poser de l'autre côté. Dis, c'est une copie de Shotten Totten ou...
Sauf que là, tu fais pas de combinaison, a priori.
Tu fais pas de combinaison. Il y a vraiment une sensation de jeu qui est très différente. Je vais y venir, mais effectivement, ça fait beaucoup penser à Shotten Totten, mais ce n'est pas Shotten Totten. Et donc, en fait, bah, toute la subtilité, justement, elle est dans les... Ce qui fait que ça va pas ressembler à Shotten Totten, c'est les actions.
D'accord.
Les actions, elles sont de, bah, il y en a quatre différentes. On a les mêmes, hein, évidemment. Les deux joueurs ont les mêmes. On démarre avec six cartes en main. Et on déclenche une action. Et les actions, bah, du coup, je vais les détailler parce que ça va être beaucoup plus simple comme ça. Il y a une action qui permet de prendre une des cartes qu'on a en main, de la mettre face cachée sous la tuile de l'action. Et elle sera posée sous les geishas à la fin de la manche. Donc en gros, c'est une carte que tu gardes secrète et qui sera jouée. Ensuite, il y a une autre action qui est de prendre deux cartes de sa main, de les mettre face cachée sous le jeton.
Ouais.
Et celles-ci ne seront pas jouées à la fin de la manche.
D'accord.
C'est l'inverse. En gros, c'est deux cartes que tu gardes, que toi tu connais, l'adversaire ne connaîtra pas, mais elles ne seront pas jouées, malgré tout. Et les deux autres actions sont des actions de pose de cartes au moment où tu vas les jouer. Mais il y a encore une petite subtilité. Il y a deux tuiles. Donc la première, c'est je mets 4 cartes sur la table, je fais 2 lots de 2 et je laisse mon adversaire choisir un lot qu'il va placer de son côté des geishas.
D'accord.
Et moi, je garde les deux autres. Et la dernière action, c'est un petit peu le même principe, c'est je prends 3 cartes. Je les mets face visible, évidemment. Dans l'autre cas aussi, hein, les cartes étaient face visible. Mmh. Mon adversaire en choisit une parmi les 3. Il la pose de son côté des geishas et moi je garde les deux autres, je les pose de mon côté des geishas. Évidemment l'autre a les mêmes, il a les mêmes actions, ouais. Donc toi aussi tu vas récupérer 2 cartes quand il va jouer le split de 4 cartes et tu vas récupérer une carte quand lui il va jouer les 3 cartes dans lesquelles tu dois choisir. Enfin, c'est hallucinant, mais en fait quand tu joues à ce jeu, tu te brises le cerveau, quoi, parce que t'as constamment l'impression de jouer pour l'autre, quoi. C'est-à-dire que les cartes que t'as en main, j'ai pas dit, mais en gros t'as 6 cartes au début, à chaque tour tu vas en piocher une. Mmh. Et du coup en fait t'en pioches qu'une, donc déjà quand tu joues ton action je pose 4 cartes, toi t'en reste plus beaucoup, quoi.
Ouais, ouais.
Et en gros à la fin quand t'auras joué tes 4 actions, t'auras joué toutes les cartes que t'as eues dans ta main. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que ça crée des déséquilibres, hein. Tu peux te retrouver toi avoir 4 cartes et l'autre en avoir plus que 2.
En fonction de l'ordre des actions en fait.
C'est ça exactement. Mmh. Et c'est marrant parce que j'ai fait 5-6 parties pour l'instant et en fait c'est vrai que tu te dis il peut y avoir des ouvertures un peu typiquement toi la pose de 4 cartes au début tu te dis c'est violent parce qu'après il me reste plus que 2 cartes, enfin 3 cartes en main.
Donc, t'as moins de choix.
Ouais ça t'as moins de choix et en fait mais tu te rends compte que bah parfois ça t'arrive de le faire quand même quoi. Même si ça paraît comme ça vu de loin pas une bonne stratégie. Je sais pas, est-ce que t'as saisi un petit peu le truc ou parce que moi du coup je connais le jeu, j'explique, donc c'est un peu facile, mais je sais pas toi.
Ouais. Donc c'est juste la geisha vient vraiment, c'est par rapport au nombre de cartes qu'il y a devant elle.
Ouais, c'est ça. D'accord. En gros, y a une geisha qui a 5 cartes, et si à la fin de la manche, toi t'as 3 cartes de ton côté et l'adversaire n'en a qu'une, et la geisha elle va être pour toi entre guillemets. Et pour matérialiser ça, en fait, on met des pions sur les geishas. Et alors, c'est là que vient encore une autre subtilité du jeu. Tu vois qu'avec pas grand-chose quand même, le jeu a beaucoup de subtilité.
Ouais.
On met des pions au milieu des geishas. Mmh. Et à la fin de la première manche, on va matérialiser avec ces pions qui remporte la geisha. En gros, si j'ai plus de cartes de mon côté de la geisha, j'avance le pion de mon côté.
D'accord.
Je le laisse sur la carte, en gros, mais je le tire de mon côté.
Voilà.
Et inversement de l'autre côté. C'est ça, ça veut dire que tu l'as gagné. En tout cas, à la fin de cette manche, la geisha, elle a plutôt envie de travailler pour toi.
D'accord. Voilà.
Et donc, à la fin d'une manche, on va regarder si quelqu'un remporte la partie.
Okay.
Voilà. Donc, s'il a soit 4 geishas, soit 11 points.
Ouais.
Si c'est pas le cas, on fait une deuxième manche. Mais on reste sur la position actuelle de ces petits jetons qui indiquent qui a la faveur de la geisha. C'est-à-dire qu'en gros, tu pars avec un avantage sur, enfin, tu pars avec plusieurs avantages potentiellement sur la manche suivante. Et c'est là que le jeu il devient encore plus intéressant, parce qu'en fait, en cas d'égalité, bah, ce qui peut arriver assez fréquemment, si tu avais la faveur de la geisha précédemment, bah, tu la gardes.
D'accord.
Ce qui fait que tu peux vraiment jouer sur les égalités. Mmh. Du coup, les actions typiquement où tu caches des cartes, ces actions-là, elles deviennent plus intéressantes à jouer à partir de la deuxième manche. Parce que quand tu caches des cartes, tu vas te dire, bon bah tiens, hop, celle-là, par exemple, j'en ai pas besoin, je sais qu'en les mettant de côté, je sais que je remporte la geisha parce que j'ai une égalité, par exemple.
Mais les cartes que tu joues, il y a quoi dessus exactement ?
Sur les cartes, en fait, ça représente simplement l'objet,
d'accord,
de la geisha. Donc tu retrouves le numéro, le nombre de cartes, ouais. Il y a un chiffre dessus, qui est le nombre de cartes
qui
existe
sur cet objet.
Voilà, exactement. Ouais. Tu as l'objet qui est dessiné, qui est aussi matérialisé, que la geisha tient dans sa main, en fait, en gros, quoi. Et puis tu as la couleur de la geisha, quoi.
Oui, donc si tu sais que tu défausses tant d'objets pour la geisha, si tu défausses, si t'as posé une carte de la geisha à 4 et que t'en défausses deux autres, tu sais que donc tu l'as gagné.
C'est ça, exactement.
Et s'il y a égalité sur la première manche, il se passe juste rien, c'est ça. Enfin, le pion bouge pas.
Le pion bouge pas, donc elle est pas, la geisha n'est remportée par aucun joueur, quoi.
D'accord.
Et donc tu repars sur une égalité sur la manche suivante, quoi. Okay. Et c'est vraiment, c'est une particularité du jeu, c'est que du coup, si le jeu se finit en une manche, tu as une petite frustration, c'est que quelque part c'est trop court, toi. Que t'es gagné ou que t'es perdu, finalement, enfin, moi j'ai eu ce sentiment, ça m'est arrivé deux fois en fait. Une fois j'ai gagné, une fois j'ai perdu, et en fait dans les deux cas tu fais merde, ça marche pas, quoi. Tu vois, le jeu il marche moins bien en une manche. La deuxième manche et éventuellement la troisième sont beaucoup plus intéressantes, quoi.
Oui, avec ce système de d'avantages pour les égalités.
Ouais, c'est ça. Ça rajoute vraiment une couche de stratégie au-dessus du jeu, quoi.
Ouais.
Pour revenir au parallèle, donc à Shoten Toten. Alors effectivement, Shoten Toten, là tu vas faire des combinaisons. Donc en gros, tu vas poser des cartes d'un côté d'une tuile au milieu, c'est matérialisé par une tuile ou par une carte, je sais plus selon les versions. Le principe c'est de remporter le plus possible, c'est des bornes, je crois, dans Shoten Toten.
C'est des bornes, tout à fait. C'est des bornes frontières, en fait, tu vas tirer la frontière vers toi ou...
Ouais, c'est ça. Mais là il faut faire des combinaisons un peu type poker, quoi, mais avec trois cartes seulement.
Trois cartes, tout ça. T'as différentes couleurs, donc tu peux faire... Donc dans chaque couleur, il y a une valeur unique, et donc tu peux faire... trois fois la même valeur dans trois couleurs différentes, tu peux faire une suite dans la même couleur, enfin, ce genre de choses.
Il y a ça qui diffère, et puis en fait, dans Shonen Totten, c'est la pose de carte directement, c'est-à-dire qu'à chaque tour, tu prends les actions de ta main, tu la poses. Mmh. Voilà. Alors que là, vraiment, ce système d'action, en fait, il chamboule vraiment toute la physionomie du jeu, quoi. C'est impressionnant. Ça fait aussi penser un peu où si t'es perdu. Parce que t'as un petit peu le même principe, hein. Si t'es perdu, finalement, c'est un système de majorité cachée, quoi. Tu poses des cartes aussi, et en gros, c'est d'avoir les cartes que l'autre n'a pas, deviner les cartes que l'autre a. Enfin bref, c'est.
Après, dans Shoten Toten et dans Les Cités Perdues, t'as cette histoire aussi où t'es. En fait, tu es dépendant plus, j'ai l'impression, que dans ce jeu-là, de la pioche, puisque là, t'auras que 6 cartes au final. Dans Les Cités Perdues, dans Shoten Toten, tu vas piocher beaucoup, beaucoup de cartes. Et du coup, t'as aussi l'obligation de jouer, et du coup, la frustration ou le devoir d'anticipation en disant, bah, ça, je le joue pas tout de suite parce que je vais peut-être piocher une carte qui va aller mieux, etc. Donc, t'as ce côté attentiste et obligation de poser qui rend le truc un peu tendu, et du coup, qui diffère un peu, je pense, de...
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Là, tu n'as pas le choix, hein. Quand tu vas poser des cartes, en plus, tu vas en poser. Alors, si t'as le côté attentiste, justement, c'est une carte, c'est que tu gardes pour la fin. Ça, souvent, tu l'utilises aussi pour faire un coup d'attente. Pour voir un peu ce que tu vas piocher, être sûr de pas te retrouver aussi à la fin, typiquement à direct défausser la carte que tu vas piocher alors que tu sais même pas ce que c'est, quoi. Ou devoir la poser, imagine, il te reste plus que cette action là à la fin, dans ce cas tu pioches la carte et tu la poses, voilà, quoi.
Ça t'arrange pas, effectivement.
Ouais. Donc il y a cet aspect là effectivement qui est assez différent. Je sais plus ce que je voulais te dire aussi.
les mécaniques aussi de je fais avec mes cartes, je fais un tas que l'autre va prendre et une partie que je vais garder.
Ouais, ça j'ai trouvé
dans d'autres jeux aussi, ouais.
Ouais, ça existe dans d'autres jeux, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'arrivais pas à retrouver dans quel jeu j'avais déjà vu ça. J'étais persuadé de l'avoir déjà vu. Je me suis dit j'ai fait un tweet, j'ai demandé aux tweetos aidez-moi là, est-ce que alors moi ce jeu quand j'ai joué, je me suis dit putain, c'est un jeu que Bruno Catala aurait pu faire quoi. Vraiment le côté deux joueurs, le côté complètement tordu où t'as l'impression de jouer à l'envers et tu vois. Ça pourrait être un monokata.
Il manque les objectifs.
ouais, peut-être. Ouais. et du coup, alors effectivement, c'est peut-être parce que donc quelqu'un m'a soufflé que effectivement c'était dans la variante deux joueurs du Petit Prince, il y a un principe comme ça.
Ouais, en fait, le Petit Prince dessine-moi une planète. C'est le principe même à plusieurs joueurs. En fait, c'est que tu vas avoir un choix entre plusieurs tuiles. Et en fait tu vas donner les tuiles restantes, alors c'est pas tout à fait pareil, mais tu vas donner les tuiles restantes à un autre joueur qui va avoir le choix, qui va donner les tuiles restantes à un autre joueur.
Oui c'est vrai,
mais à deux joueurs effectivement ouais. tu dois peut-être faire deux joueurs
en fait tu mets trois, ça ressemble en fait à la tuile d'action 3 d'Anamikoji parce qu'en fait tu vas mettre trois tuiles et l'autre va en choisir une. Sauf que il y a une subtilité supplémentaire dans le Petit Prince, c'est qu'il y en a une que tu mets face cachée.
Ouais.
Voilà, donc ça rajoute un peu de sel encore. Mais ouais, c'est ce truc-là ressemble encore plus.
Il y a ça aussi un peu dans Isle of Sky quelque part, parce que tu vas mettre plusieurs tuiles et il y en a qui peuvent être achetées. Et en fait, si elles sont pas achetées, tu les gardes. Donc t'as intérêt à mettre des biens, mais pas trop, parce que sinon tu t'es fait tout acheter, etc. Enfin,
ouais, c'est vrai.
C'est un peu différent aussi, mais t'as ce côté, je mets à disposition et je récupère ce qui est pas pris, quoi.
En tout cas, c'est des mécanismes qui provoquent des dilemmes assez forts, en fait.
Ouais.
Effectivement, dans la Life Sex, c'est pas encore tout à fait pareil, parce qu'il y a, ça se rapproche, un peu d'un jeu d'enchères, dans le sens où il faut que t'estimes la valeur de ta tuile pour savoir si les autres vont te la prendre ou pas, quoi. Mais c'est une enchère un peu déguisée, quoi. Ouais, effectivement, ouais. Non, mais c'est bien vu, ouais. Tout ça, c'est des mécanismes qui provoquent des dilemmes vraiment très forts. Et quand je te dis, du coup, dans un Anamikoji, t'as vraiment l'impression de jouer à l'envers, quoi. Parce que tu, hormis les actions qui sont un peu plus simples que j'ai décrites au début, où tu gardes une carte que tu vas jouer plus tard et tu masques deux cartes qui ne seront pas jouées, les autres cartes, t'as vraiment la sensation, c'est du crève-cœur, quoi. Les cartes, elles sont dans ta main, tu dis, c'est mes cartes, tu vois. Bah non, l'autre il va t'en prendre, quoi. Donc c'est ouais. Et du coup ça ajoute un côté un peu guessing dans le jeu, parce qu'il faut que tu arrives à deviner ce que l'autre va te prendre en fonction du coup de ce qu'il a déjà posé et de ce qu'il a éventuellement dans sa main, parce que bon après le jeu il y a, genre j'ai pas compté le nombre de cartes, il y en a 6 plus 2 x 3 ça fait 12 plus 4 ça fait 16 plus 5 ça fait 21, bah oui si je le sais en fait c'est 21 parce que 11 c'est la majorité plus 1 de, enfin bref
ouais.
Voilà. C'est de 21. Donc il y a 21 cartes, donc tu vois il y en a pas énormément, hein. Au début t'en as 6, enfin t'en as 7 quoi, t'en as très vite 7, donc t'as déjà 14 cartes qui sont distribuées dès le départ quasiment.
Ouais.
Il y en a une qui sera pas jouée. C'est pas,
oui.
C'est, bon.
Pas une de chaque côté.
Il y a une seule carte de toute la pile qui n'est pas jouée.
En plus des cartes qui sont mises de côté, il y a 5 cartes qui sont pas jouées en fait du coup. 2 de chaque côté qui sont mises de côté, c'est ça, qui seront pas jouées.
Ah oui,
tu connais plus une dans la pile quoi.
Oui, c'est ça. Voilà.
Okay.
Oui. Pardon.
Mais c'est moi qui ai mélangé les deux trucs.
Non, il y a pas de souci. Et donc ouais, on m'a cité donc du coup le Petit Prince, San Marco, quel j'avais déjà joué, mais j'avoue je me rappelais même pas la mécanique. Shiteno, apparemment qui se base là-dessus, mais pareil j'ai jamais joué. Et une pointe de Chantilly là qui a été réédité en un truc pizza, je sais pas quoi, New York Slice, je crois c'est le nom, qui est un système où en gros on se répartit des parts de pizza dans la nouvelle version, c'est un peu le même principe où tu vas proposer quoi, en gros,
D'accord.
En termes d'ergonomie, bon, il n'y a pas grand chose à dire sur le jeu, hein, franchement. Bon, après, tu vois, c'est un matériel assez minimaliste. Ce qui est un tout petit peu bizarre, alors c'est vraiment un micro reproche, quoi. Je trouve ça un petit peu bizarre. C'est la tuile du jeu Garde 2, j'en donne une. En fait, bah, la première fois que tu la joues, tu pourrais croire que c'est l'inverse, parce que tu sais, elle a pas de sens, la tuile. Mmh. Du coup, en fait, t'as trois cartes qui sont matérialisées avec des flèches. Une d'un côté, deux d'un autre. Et bah, comme elle a pas de sens, la tuile, toi, la première fois, tu pourrais te dire, bah, j'en donne deux, j'en garde une. Bon, c'est con, mais en fait, j'ai regardé l'édition d'origine. Bah, l'édition d'origine, en fait, la tuile avait une orientation. Donc, du coup, toi, t'avais pas ce problème, quoi. C'est un peu bizarre, du coup, d'avoir changé l'orientation de la tuile et le côté, il y a un bas et un haut, quoi, tu vois. Bon, bref. Mais bon, c'était histoire de dire quelque chose, quoi. Okay. En termes d'adéquation au thème, ben bon, sincèrement, le thème est plaqué, hein, c'est pas voilà quoi. Oui.
C'est un jeu assez mécanique finalement, donc.
C'est ça, il y a pas de cohérence entre le thème et la mécanique. En plus, sincèrement, c'est un peu limite, quoi. Toi, quand tu l'expliques au début, tu dis oui, j'ai m'attiré les faveurs des geishas. Tu fais bon. On leur offrant des cadeaux, oh super, l'image de la femme, merci quoi. Bon, voilà, je connais pas trop bien la culture japonaise, mais bon, je crois qu'ils ont pas forcément une très haute estime de la femme. Bon, voilà, Isobretnik nous répondra en commentaire pour nous expliquer un peu mieux tout ça, mais bon, voilà, je trouve que c'est un peu limite. En revanche, les illustrations, ils ont gardé les illustrations. Ah oui, parce que je l'ai pas dit ça. C'est un jeu, donc ils ont gardé les illustrations d'origine.
D'accord.
Donc, pourquoi d'origine? Parce qu'en fait, c'est un vieux jeu. C'est un jeu de 2013.
Ah,
j'ai complètement truandé la chronique.
Tu n'as pas tout dit.
Et oui, non, j'ai oublié de le dire. Mais en fait, c'est un jeu qui a été édité précédemment par Emperor S3, je crois que c'est comme ça le nom de l'éditeur, qui est un éditeur taïwanais. Alors c'est un auteur japonais, mais ça a été édité par
une boîte taïwanaise.
Voilà, une boîte taïwanaise. Et donc en fait ils ont gardé les illustrations d'origine. Et petit détail qui fait son petit défaut, c'est que il y a un texte sur la carte qui, je pense, est le nom de l'objet. Et pourquoi je pense? Parce qu'il est en japonais. Et que bon bah voilà quoi. Et donc t'as l'impression d'avoir un jeu exotique alors que bon bah c'est une édition française quoi. Mmh. Mais ils ont pas traduit le mot pour garder la patte quoi, la patte de l'illustrateur et l'immersion dans le
thème. Ça empêche pas la compréhension, c'est pas plus mal.
Ah bah non, il y en a pas besoin, hein, franchement. Enfin, je veux dire, t'as la couleur, t'as le dessin de l'objet, t'as absolument pas besoin du texte. Du coup, justement, ça ajoute un peu de folklore au jeu. Et bah c'est super con, mais en fait, voilà, c'est bien vu en fait d'avoir fait ça, je trouve. Mm. Puisque de toute façon, il sert à rien. Donc voilà, ça c'est plutôt bien pensé. Alors moi, j'ai revu la boîte. Hein, la boîte, c'est la gamme mini. Je l'ai pas dit non plus, mais c'est un jeu qui rentre dans la gamme mini de Yellow. Voilà, donc
dans
c'est
la même gamme que la
blanche
réédition de Chotun Totun. Du coup.
Bah exactement, voilà. Donc, mais comme quoi, ils ont, c'est bien deux jeux différents et ils ont raison parce que
oui.
Si t'aimes Shoten Toten, tu devrais aimer Anami Koji, quoi. Mm. Voilà, y a pas de raison. En termes d'interaction, ben c'est un jeu à deux dans lequel tu peux pas jouer dans ton coin. Je pense que t'auras compris. Il faut tenter de deviner les cartes que l'autre a. Tu lui fais des propositions de cartes, donc non seulement il faut deviner, mais en plus il faut bah, tu lui donnes des cartes, quoi. Donc, il faut pas que tu te plantes. Et puis, en termes de sensation de jeu, bah, j'en ai déjà parlé, hein, mais c'est vraiment intéressant parce que t'as cette sensation de jouer à l'envers, quoi. C'est déroutant, en fait.
Ouais.
C'est un jeu qui est déroutant et des jeux comme ça, il y en a pas forcément beaucoup non plus. Et rien que pour ça, c'est intéressant. Je dis pas que je vais en faire des dizaines et des dizaines de parties. Mais je pense que c'est un jeu, tu vois, que je vais garder dans ma ludothèque et que je vais ressortir de temps en temps. Et voilà, pour le côté, je me prends un contre-pied, quoi. Mm. Voilà. Et puis le fait aussi de jouer sur les deux tableaux, j'ai expliqué, hein, on peut gagner soit en ayant 4 geishas, soit en ayant 11 points. Ouais. bah ça permet aussi des revirements l'air de rien, parce que bah c'est pas forcément en remportant les geishas les plus fortes où il va falloir potentiellement mettre le plus de cartes que tu vas gagner la partie. Tu peux réussir à gagner avec les geishas un peu moins prestigieuses.
Ouais, en ayant 4. De toute façon, voilà. Au niveau des points, tu dois forcément en avoir 3 minimum pour avoir 11 points.
Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut avoir minimum, on va dire par exemple, la 5, la 4 et une 3 ou une 2, quoi. Voilà.
Il y a 5 geishas en tout, c'est ça ?
Il y en a 7, si je ne dis pas de bêtises.
Et du coup, est-ce que ça peut arriver qu'il y ait quelqu'un qui dépasse 11 et qui est que l'autre et 4 geishas dans la même.
C'est possible. Ouais, c'est possible. Dans ce cas-là, c'est celui qui a les 11 points qui l'emporte.
D'accord.
En termes de public, on est sur un jeu minimaliste, donc le minimalisme en fait il embarque quoi ? Il embarque effectivement un peu de matériel, mais une richesse, tu vois, dans le jeu, dans le gameplay, c'est-à-dire qu'en fait avec peu de choses finalement tu te retrouves avec beaucoup de strates. C'est ça qui est intéressant dans le minimalisme, parce que le minimalisme, juste pour dire la belote, effectivement c'est 32 cartes et enfin pas la belote mais la bataille plutôt, parce que attention là, je vais me faire trucider, hein. Ouais, surtout que j'aime bien la belote, hein. Attention, je précise, hein, disclaimer, j'aime la belote. Non mais bon, la bataille, tu vois, on pourrait dire que c'est minimaliste et c'est nul, quoi. Donc c'est minimaliste dans le matériel. Là, c'est le genre minimaliste qu'on peut donner dans le jeu de société. Ça s'emporte partout, donc c'est genre le jeu idéal pour jouer en couple quand on part en vacances. Ça se joue pas dans un train. Ça prend quand même un tout petit peu de place. C'est pas bon, c'est pas énorme, hein, mais bon, tu vois, t'étales tes sept cartes geisha. Ouais, c'est des cartes assez grandes en fait, hein, format.
Non,
peut-être genre Dixit, tu vois. Je pense que peut-être un tout petit peu moins haut que Dixit, peut-être. Et mais voilà, c'est vraiment un jeu rotor. Donc moi, je le conseillerais aux gens qui aiment ce genre de jeu minimaliste. Ceux qui aiment Shoten Totten aimeront ça. Ceux qui aiment Les Cités Perdues, typiquement, ils aimeront ça.
Ouais. Les gens qui jouent à deux, quoi, aussi.
Les gens qui jouent à deux. Ouais. Bah après, dans les jeux à deux, il y a un peu de tout, quoi. Et j'ai noté aussi les gens qui aiment les jeux de Bruno Catala, je pense. Alors c'est vrai qu'il fait beaucoup de jeux à deux, mais tu vois, il y a ce petit côté rotor dans le jeu qu'on retrouve pas mal dans les jeux de Bruno Catala, et du coup bah ça c'est il y a ce petit côté là, quoi. Voilà.
Ok.
Voilà. Bon bah quoi dire d'autre ? Alors j'ai entendu dire de Théo Rivière en fait qu'il y avait des cartes supplémentaires qui avaient été vendues à Essen cette année. Alors, je crois que c'était 2 € pièce la carte. Carte, ça fait un peu cher. Du coup je lui ai demandé là vite fait ce que c'était. Et en fait ben c'est juste des cartes pour remplacer les geishas existantes. Mais en fait elles sont pas différentes dans le gameplay, si tu veux. C'est juste un design différent.
Un artwork alternatif.
Oui, c'est ça, si j'ai bien compris. Donc voilà, pas forcément pas intéressant pour le jeu, quoi. Après, les illustrations sont vraiment très jolies, hein, donc effectivement si on aime ce genre d'illustration, pourquoi pas. Après, 2 € pièce, un peu cher, voilà.
Ouais.
Voilà, donc ça c'est pour l'aspect variante extension, fausse extension, quoi. Donc voilà.
Vous dites bon, payant.
Ouais, je sais pas s'il est utile que je prononce un avis final. Bon, ouais, je pense que vous avez compris, j'ai bien aimé le jeu. J'ai dit, voilà, j'en ferai pas forcément 10 parties là en ce moment, mais c'est le genre de jeu que je vais garder dans la Ludo, ressortir. Bah, comme Shoten Totten, quoi. Voilà, je l'ai dans ma Ludo, je le sors pas forcément super souvent, mais voilà, le jour où je vais partir, on va partir à deux, ben, il y a un de ces deux jeux qui risque de partir avec quelques autres, quoi. Voilà.
Très bien. Tu refais la petite fiche signalétique ?
Eh bah ouais. Anamikoji, c'est un jeu de Kota Nakayama, qui n'est pas vraiment connu pour d'autres jeux, à ma connaissance. Un jeu édité par Yellow dans la gamme Mini, illustré par Mei Shirley Chan, pour 2 joueurs, à partir de 10 ans. Sur l'âge, je pense que c'est à peu près... ça me paraît correct. Des parties de 15 minutes, ça peut être un peu moins si on se retrouve à faire qu'une manche. Ça peut être un petit peu plus si on se retrouve à faire 3 manches, qui est le maximum, d'ailleurs j'ai pas précisé, mais au bout de 3 manches ça s'arrête, on compte les points. Mais bon, là, oui, 15 minutes en moyenne, quoi, là. Et 12 € tout rond chez Philibert.
Et c'est disponible.
C'est disponible. Et oui, c'est ce mois-ci, on a réussi à chroniquer deux jeux dispo. C'est ça, peut-être que, ouais, parce qu'on enregistre vachement tôt par rapport à d'habitude. On est à plus d'une semaine avant. Mais si ça se trouve, d'ici là, il y en aura un qui ne sera plus.
Si vous avez aimé cette chronique, n'hésitez pas à venir sur le site pour nous le dire. Hein. On aime toujours avoir des commentaires. N'oubliez pas non plus qu'on a un Tipeee. Si vous voulez faire un petit don mensuel pour nous soutenir, et aussi un PayPal si vous voulez faire un don plus ponctuel. Voilà. D'ailleurs, on remercie encore une fois Monsieur Krishk qui nous a fait un don PayPal récemment.
Merci.
On se retrouve le mois prochain. Est-ce qu'il y a un jeu du mois le mois prochain ou est-ce que c'est Cannes ?
Eh ben non, le mois prochain, on sera à Cannes. Et donc, voilà. Du coup, on va faire une petite inversion de calendrier, puisque à un moment de Cannes, on devrait diffuser les chroniques normalement.
Ouais.
Et l'épisode des chroniques, voilà, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. Du coup, on diffusera l'épisode des chroniques plus tard.
À la place du jeu du mois.
C'est ça. Et du coup, on diffusera des débriefs quotidiens. Qu'on va enregistrer sur place pendant Cannes. Donc du coup, voilà. Comme on sera tous les deux sur place,
toi et moi,
voilà.
Bon voilà, on se retrouve à Cannes du coup, et puis en attendant,
jouez bien. Bien. Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans la chronique Proxy Jeu. Oh, n'importe quoi.
Et le quatrième, c'est...
Eh ben, c'est pas lui qui va gagner.
Merde.
Ah, ça va être un peu chiant à expliquer. Et oui, je sais plus. Oui, c'est ça, c'est tout.